Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Je remercie toute l'équipe de Louange qui a travaillé pour nous aider à tourner nos regards vers Dieu, nos cœurs vers Dieu, nos louanges vers Dieu jusqu'à présent. Merci aussi pour le choix du dernier psaume, Florent, que tu as lu, qui était, je pense, grandement inspiré par les passages qu'on est en train d'étudier en ce moment. Le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Dieu qui attire, pardonne et répond ». Ce n'est pas forcément le premier titre qui me venait à l'esprit sur ce passage, mais c'est là où j'en suis arrivé. Puis vous pourrez me dire à la fin si jamais ça correspond bien au texte qu'on va lire. Je vais rappeler un petit peu le contexte, soit pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents ou si vous ne vous rappelez pas tout à fait de tout ce qui s'est passé avant. Le contexte du texte et donc l'histoire qu'on lit, c'est pendant le règne d'Akab. Akab a vécu autour de 860 avant Jésus-Christ, donc il y a fort fort longtemps. Et c'est dans le royaume du nord d'Israël. Alors il y a deux semaines, quand Jean-Baptiste a prêché, il vous a montré une jolie frise chronologique qui montrait ces choses-là. Ça fait à peu près 70 ans que Salomon est mort, et après sa mort, les 10 tribus du nord d'Israël se sont séparées de celles du sud, et ça a formé deux royaumes distincts, qu'on appelle le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et depuis cette scission, tous les rois successifs dans le royaume du nord se sont détournés de Dieu et ont instauré des cultes idolâtres. Dans un premier temps, déjà pour empêcher que les gens retournent à Jérusalem pour adorer l'Éternel, là où il y avait son temple. Donc Jéroboam a fait construire des idoles dans le nord. Et cette idolâtrie s'est instituée à une bien plus grande échelle encore sous le règne d'Akab, parce que Akab s'est marié avec Jézabel et donc s'est allié par mariage avec le royaume de Sidon en Phénicie, un peu plus au nord. Et Jézabel a importé les cultes idolâtres qui venaient de Sidon, et notamment les cultes de deux divinités, que sont Baal et son pendant féminin qui est Astarté. Baal était considéré à cette époque comme le dieu de l'orage, le dieu de la fertilité, parce que les divinités païennes de l'époque, on leur donnait généralement des petits traits de caractère différents les uns des autres. Et donc on se retrouve dans ce contexte-là, et Élie est appelé par Dieu et reçoit l'ordre de transmettre des paroles de la part de Dieu à Akab et à l'ensemble du peuple du royaume d'Israël. Et sur ordre de Dieu, Élie a annoncé, voici 3 ans et demi, une sécheresse qui a perduré. 3 ans et demi, c'est très très long pour une sécheresse. Et pendant ces 3 ans et demi, Élie s'est caché, sur ordre de Dieu aussi, mais aussi afin de ne pas se faire tuer, étant donné que Akab et Jézabel ont pendant tout ce temps essayé de le tuer, en le prenant comme responsable de la sécheresse qui avait eu lieu. Enfin, qui avait lieu. Et le moment où on se trouve, c'est juste après que Élie se présente à nouveau devant Akab et devant le peuple. Et il a fait rassembler en haut du mont Carmel Akab, le peuple, mais aussi tous les prêtres institués pour le culte de Baal et d'Astarté, 850 prophètes. Et sur cette montagne, Élie enjoint, insiste pour que le peuple se positionne et choisisse s'il est pour Dieu ou pour Baal. Et il met en place un défi entre Dieu et Baal avec deux autels. Élie fait un autel et prépare un sacrifice en l'honneur de Dieu. Les prêtres de Baal préparent eux aussi un sacrifice en l'honneur de Baal, mais personne n'a le droit d'allumer le feu du bois sous le sacrifice. Et le défi, c'est le seul vrai Dieu, c'est celui qui allumera lui-même le feu sur le sacrifice. Dans le dernier passage que vous avez étudié, c'était honneur aux plus nombreux, les prêtres de Baal qui ont insisté pendant toute la journée, depuis le matin jusqu'à la fin d'après-midi, pour que Baal réponde et envoie, comme il est le dieu de l'orage, hein, envoie le feu du ciel pour pouvoir consumer ce sacrifice. Et les derniers versets qu'on avait, c'était « Baal ne dit rien, Baal ne fait rien ». Rien ne s'est passé, Baal, qui n'est rien, n'a rien pu faire. Un verset vraiment central dans le passage qu'on avait juste avant, celui qu'on va voir, c'est cette interpellation du peuple que fait Élie. Quand Élie, c'est le verset que j'ai mis là en dessous, quand Élie dit au peuple « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne répondit rien. Malheureusement, le peuple restait dans cette confusion, dans ce mélange des genres. Et c'est le reproche principal qui est fait au peuple à ce moment-là. Alors ça peut sembler un petit peu lointain ces choses-là, hein. Ça s'est passé il y a 2800 ans, même un peu plus. Baal, on n'en entend pas beaucoup parler, on n'a plus trop l'habitude d'avoir des idoles créées de toutes parts. Et j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui pourrait faire le pont entre cette époque lointaine et aujourd'hui, pour voir si jamais on est encore concerné par ce genre de problématiques. Et en cherchant dans mes archives, j'ai retrouvé cette photo. Alors l'adolescent pas tout à fait bien dans ses baskets que vous voyez sur cette photo, c'est moi, le siècle dernier. Je me trouvais ici, dans une ville qui aujourd'hui encore est nommée en l'honneur de Baal. Cette ville s'appelle Baalbek. Elle est située au Liban, dans la plaine de la Béka. Et à l'époque de notre texte, elle se situait sur le royaume de Sidon. Et juste derrière moi se dressait un temple en l'honneur de Baal, un des principaux temples du royaume de Sidon, en l'honneur du roi Baal. Et donc ça fait déjà un lien avec l'époque. Mais le temple que vous voyez derrière moi, ce n'est pas le temple de Baal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce territoire a été... a vu des guerres, a vu des tremblements de terre et a vu aussi des envahisseurs arriver, notamment les Grecs qui sont venus, puis les Romains. Et ceux-ci ont trouvé que le culte à Baal était plutôt pas mal et que Baal était une bonne divinité. Ils ont considéré cette divinité comme étant solaire et ont renommé la ville Héliopolis. C'était le nom de cette ville pendant plusieurs siècles. Et les Romains se sont dit, ça serait quand même bien qu'ils adoptent un petit peu nos coutumes sur place, mais on ne va pas trop les mélanger avec le dieu qu'ils adorent déjà. Et ils ont essayé de chercher des similitudes entre des dieux du panthéon romain et le culte de Baal et d'Astarté qui avait lieu là. Et ils ont trouvé deux dieux romains qui pouvaient pas mal correspondre et pour faire un petit peu un mélange. C'est un temple à Bacchus qui est juste derrière moi et juste à côté se trouve un temple à Jupiter, qui était le plus grand ou le deuxième plus grand temple à Jupiter de tout l'Empire romain. 500 mètres plus loin se trouve un temple à Vénus, qui est venu remplacer le culte à Astarté pour avoir une figure féminine dans ces temples. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Avec les siècles qui ont passé, il y a aussi une basilique chrétienne qui a été construite sur le même site, juste derrière, dans ce qu'on appelle l'esplanade des sacrifices. Il y a aussi une mosquée qui a été construite là, avec le temple de Jupiter qui est en partie tombé en ruine et les pierres ont été réutilisées pour construire une mosquée qui a été depuis détruite. Toutes ces choses-là, c'est dans le cœur humain de pouvoir mélanger la culture ambiante avec ce que les gens croient et c'est quelque chose qui traverse les siècles. Je ferme juste ma parenthèse là-dessus, mais je trouve que ça faisait pas mal le pont entre cette époque et notre époque d'aujourd'hui. Lisons le texte d'aujourd'hui. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Alors ça, c'est directement en lien avec le texte d'avant. Hein. Les gens s'étaient peut-être un peu dispersés, ils en avaient marre, ça fait depuis tôt le matin, et là, on était quasiment à 6 heures le soir. que rien ne se passait. Hein. Et donc, ils en avaient peut-être marre de regarder. Il y avait eu beaucoup de tumulte avec les prêtres de Baal qui avaient fait plein de choses pour essayer d'interpeller Baal, d'où l'autel qui était tombé en morceaux. Alors, Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit « Tu t'appelleras Israël ». Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois ». Il dit « Faites-le une deuxième fois ». Et ils le firent une deuxième fois. Il dit « Faites-le une troisième fois ». Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Alors je vous propose juste de vous arrêter une minute là, au milieu du texte, et faites comme si vous ne connaissez pas la suite, parce que Élie ne connaissait pas la suite quand il était à ce moment-là. Comment vous vous sentiriez à la place d'Élie ? Alors là, on a l'autel tout mouillé. On a vu que Baal n'a pas répondu. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a déjà Acab qui veut le tuer, mais il y a certainement les 850 prophètes de Baal et d'Astarté qui veulent le tuer aussi. Que va faire Dieu ? Est-ce qu'il va répondre ou pas ? D'ailleurs, c'est un peu bizarre de balancer encore plein d'eau sur le bois ici. Est-ce qu'il est en train de flamber un petit peu ou de se la péter, Élie ? D'ailleurs, dans le texte précédent, on a vu qu'il se moquait des prophètes de Baal. Hein. Alors c'est au minimum osé, voire même un peu limite, dans ces conditions-là, d'aller se moquer de tous ces gens en étant tout seul ici. Hein. En tout cas, il était dans une situation bien inconfortable à ce moment-là. Il avait fait plein de choses, maintenant, il y avait intérêt à ce que Dieu réponde. Hein. Lisons la suite. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il lava l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors déjà, on a la réponse à notre question. Par orgueil qu'il a fait verser de l'eau, c'était sur l'ordre de Dieu. Ce que Élie a fait jusqu'à présent, c'était Dieu qui lui avait demandé explicitement de le faire. Ceci dit, ça ne change rien à la position inconfortable dans laquelle il se trouvait après avoir fait toutes ces choses sur l'ordre de Dieu. C'est difficile de savoir exactement si Dieu lui a dit ce que lui allait faire. En tout cas, Dieu a dit à Élie ce que Élie devait faire. Si on prend pas mal d'autres exemples qu'on a dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, quand Dieu demande à quelqu'un de faire quelque chose, Dieu ne dit pas toujours ce que lui-même va faire. Si je prends le parallèle, par exemple, avec Abraham, à qui Dieu a demandé d'offrir son fils Isaac, Abraham ne savait pas ce que Dieu allait faire. Alors, Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham s'est imaginé ce que Dieu pourrait faire, que peut-être il allait ressusciter son fils. Mais Abraham ne savait pas comment Dieu allait intervenir. Et il est allé, comme Élie, jusqu'à ce moment-là, dans cette position complètement inconfortable, où il était prêt à tuer son fils pour obéir à cet ordre qui semblait absurde que Dieu lui avait donné. Pour Élie, en tout cas, l'inconfort, on peut le sentir dans sa prière. Quand il insiste, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi » peut-être il y a une pointe de doute hein, d'insister même comme ça. En tout cas, il y a vraiment une attente dans l'action de Dieu à ce moment-là. Et Dieu a agi directement. Alors nous, on n'a pas de suspense parce que ça vient dans le verset d'après. Et en plus, cette fois-ci, Dieu a agi de la manière où on s'attendrait qu'il agissait. Finalement, il a fait descendre le feu du ciel. Et puis finalement, c'est la suite qui semblait la plus logique hein, au moment où on était. Mais ce n'est pas toujours comme ça que Dieu agit. Dieu agit parfois d'une manière qui ne correspond pas forcément à ce qu'on attend le plus. Par contre, Dieu ne nous laisse jamais tomber. Et ça, c'est un point que je veux d'abord relever, c'est si l'obéissance à Dieu nous engage, nous amène peut-être dans des situations inconfortables, demande du courage, demande de faire pleinement confiance que Dieu va agir, c'est parce que Dieu ne nous laisse pas tomber derrière et Dieu agit. Et c'est la première leçon que je veux sortir d'ici. Ce qui va avec, c'est la manière dont il agit. Ici, le feu de l'Éternel tomba alors. Alors, c'est très succinct, ce qui nous est dit ici. On n'a pas le son et les images, on a juste le texte. On a l'autopsie de l'autel juste après, dont il ne reste plus rien. Mais on peut s'imaginer un petit peu ce qui s'est passé. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie qu'un éclair tombe très proche de moi. Quand un éclair tombe proche, on a d'abord une lumière aveuglante qui s'imprime sur la rétine, mais surtout, encore plus impressionnant, on a le son qui arrive immédiatement, pas comme d'habitude où on a le temps de savoir qu'il va arriver, on a le son qui arrive immédiatement, qui entoure complètement et qui est assourdissant. Et les éclairs que j'ai vus tomber, ils n'ont jamais consumé des pierres en dessous. La puissance du feu que Dieu a fait tomber du ciel a certainement fait hérisser les cheveux de tout le monde avec l'électricité statique, a fait des frissons dans le dos et une sensation que le peuple, dont le peuple s'est souvenu jusqu'à la fin de leur jour. Dieu a manifesté sa puissance parce qu'il est puissant. Et ça, c'est la raison pour laquelle on peut lui faire confiance qu'il ne nous laisse pas tomber. C'est parce qu'on peut s'appuyer sur un Dieu qui est tout-puissant, qui est puissant suffisamment pour pouvoir le démontrer de la manière spectaculaire qu'il a faite à cet endroit-là. Mon deuxième point dans ce texte, c'est la fidélité du Dieu qui transpire dans ce texte. D'abord, on voit le soin du détail qui est pris sur le fait de prendre 12 pierres pour construire cet autel et de bien rappeler que les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël issues des 12 fils de Jacob avec lesquels Dieu a fait son alliance. C'est Dieu qui s'est engagé, c'est Dieu qui a fait son alliance et lui ne casse pas son alliance. C'est étonnant, hein, on est dans le royaume du Nord. Dans le royaume du Nord, c'est principalement issu de 10 des 12 tribus qui ont voulu se détacher des deux autres tribus, ne plus reconnaître le roi issu de la lignée choisie par Dieu, de la lignée de David, comme étant leur roi. Donc c'est des gens qui se sont volontairement détachés de l'alliance de Dieu. C'est des gens qui sont actuellement idolâtres, c'est ce qu'on voit ici. Et Dieu, quand même, rappelle son alliance. Il rappelle que lui, il a fait alliance et que lui n'oublie pas son alliance avec ses 12 pierres. Le timing non plus n'est pas pour rien. C'est au moment de l'offrande, la présentation de l'offrande. Ça fait certainement ici référence à un sacrifice qui devait être un des deux sacrifices qui devait être offert tous les jours. Dans le Lévitique, Dieu a institué un certain nombre de sacrifices rituels et tous les matins et tous les soirs devait être fait un holocauste. Et cet holocauste perpétuel avait pour rôle de diriger les yeux vers Dieu chaque jour pour pouvoir se souvenir de Dieu, se souvenir de ce que Dieu a fait, se souvenir de ce que Dieu va faire. Et ça fait certainement très longtemps, peut-être 70 ans ici, que ces sacrifices n'ont pas eu lieu dans le royaume du Nord. Et Élie prend le rôle de prêtre ici, où Dieu lui a demandé de prendre le rôle de prêtre pour faire cette offrande du soir dans le but de tourner encore les regards du peuple vers Dieu. Et au milieu de ce passage, on a ce que je trouve pour moi le plus beau dans ce passage, c'est le verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » C'est beau. Quelle douceur on trouve au milieu. Dieu donne son objectif de tout ce qui se passe ici. C'est la clé de compréhension non seulement de ce qu'on lit, mais de ce qu'on étudie depuis des semaines. Le but de Dieu, ce n'est pas de se venger, ce n'est pas de juger, ce n'est pas seulement de montrer sa puissance. Le but de Dieu, c'est de ramener le cœur de son peuple vers lui. C'est le but qu'il avait avec ce défi, c'est le but qu'il avait en imposant cette sécheresse qui a été un événement dur pour tout le monde. C'est le but qu'il a tout au long de la Bible. C'est le but qui transpire de tout ce que la Bible nous dit. Le but de Dieu, c'est de ramener les cœurs de son peuple à lui. Et ça, ça me touche particulièrement, surtout de le voir dans un passage comme celui-ci où je ne m'y attendais pas, en fait. Et ça fait un de ces contrastes, en fait, avec la divinité Baal. Juste avant, dans le passage précédent, on voyait des prêtres de Baal qui se mutilaient, qui se faisaient des incisions pour espérer avoir un signe de la part de Baal. Ça, c'est ce qu'offrent les idoles du monde. Quand j'habitais à Singapour, j'ai vu une fois une fête hindoue où des gens se mutilaient de cette manière-là. C'est vraiment choquant. C'est actuel. Des millions de personnes font des choses comme ça encore aujourd'hui. Dans notre culture, c'est peut-être pas de cette manière-là, c'est peut-être de manière plus imagée, mais les idoles du monde n'ont rien de bon à offrir. Dieu n'a rien à voir dans sa douceur, dans son caractère, dans qui il est, avec les idoles qu'on a dans notre monde. Et mon troisième point, j'ai essayé de réfléchir un petit peu plus à cette eau qu'on a mise sur l'autel. Déjà, parce que c'était pas rien de mettre de l'eau à cet endroit-là. Je vous rappelle que ça fait 3 ans et demi qu'il y a de la sécheresse. Ça fait bien longtemps que tous les torrents sont à sec. On est au sommet d'une montagne, donc les litres d'eau, ils ont dû aller les chercher loin. C'est un petit peu comme si vous êtes au sommet d'une montagne, vous faites une rando, et puis quand vous êtes au sommet, on vous demande de balancer toutes vos gourdes par terre. Alors déjà, il doit y avoir un sens si on demande quelque chose comme ça. Après, trois fois, on a versé 4 cruches d'eau sur l'autel. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Il y a beaucoup de maths dans la Bible et les chiffres sont généralement pas, enfin, ou les nombres sont pas généralement pas choisis au hasard. Le 12 d'ailleurs, il est bien expliqué dans ce chapitre. À chaque fois que le 12 apparaît, presque en tout cas, c'est pour faire référence au peuple de Dieu. Et ici, le 12 correspond aux 12 pierres qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. L'eau, c'est ce qui fait obstacle à ce qu'on puisse allumer le sacrifice. S'il n'y avait pas eu d'eau, en soi, ça aurait été possible d'amener du feu, de démarrer le feu sous le bois de l'Holocauste. L'eau, c'est ce qui empêche même n'importe quel être humain de pouvoir allumer ce feu. Et ça n'a pas arrêté Dieu, par contre. Dieu, malgré toute cette eau, a fait tomber son feu qui a consumé non seulement le sacrifice, tout l'autel, mais aussi toute l'eau, ainsi que l'eau qui était tout autour. Pour moi, l'eau qu'on a là-dedans représente parfaitement notre péché, qui est un obstacle à notre relation avec Dieu. Notre péché contre lequel on ne peut rien. On ne peut pas allumer un sacrifice de communion avec Dieu, avec ce péché qui nous en empêche. Et ça fait une très belle image. Jésus, par son sacrifice une fois pour toutes sur la croix pour le pardon de nos péchés, a représenté l'ensemble des sacrifices institués dans l'Ancien Testament. Les 4 sacrifices principaux qu'on va trouver dans le livre du Lévitique sont des images de ce que Dieu a réalisé au travers de Jésus à la croix. Et ce que nous lisons ici est aussi une image de ce que Dieu a pleinement accompli à la croix. Jésus a tout fait, a tout fourni pour que nous puissions être pardonnés malgré notre péché et que notre péché soit effacé. Alors ça, c'est un texte de l'époque et qu'est-ce qu'on peut en retenir pour nous aujourd'hui? Peut-être la première chose à retenir, c'est la conclusion du peuple, hein, une fois qu'il a vu ça. Le peuple s'est écrié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors malheureusement, ça n'a pas duré longtemps pour le peuple d'Israël. Mais cette vérité reste vraie aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Il n'a pas changé et son objectif reste le même. Son objectif est d'attirer son peuple à lui. D'attirer son peuple qui le reconnaît déjà aujourd'hui comme sauveur et seigneur, de l'attirer plus à lui, d'attirer aussi ceux qui aujourd'hui ne l'ont pas reconnu comme sauveur et seigneur, mais qui sont appelés à le faire plus tard. C'est lui qui a tout accompli pour le rendre possible. Deuxième chose que je me dis pour nous aujourd'hui, c'est que dans notre marche avec Dieu, on n'est pas si différent des gens de l'époque. On n'est pas plus bête que les prêtres de Baal. C'est des êtres humains comme nous. Hein. S'ils étaient prêtres de Baal, ils pensaient qu'ils étaient dans la vérité, ou alors au moins qu'ils avaient fait un bon choix et que ça leur apportait de bonnes choses de faire les choix qu'ils ont faits. Notre engagement avec Dieu peut facilement être entaché par les valeurs du monde, par la recherche du confort, par la recherche de la tranquillité, par la recherche de l'argent, par rechercher son identité dans nos amis, dans rechercher notre identité dans notre carrière. Beaucoup de choses peuvent entacher notre engagement avec Dieu. Mais ce texte nous montre que même quand on s'est éloigné loin de Dieu, on peut revenir vers lui sans crainte. Il est là, les bras grands ouverts, pour offrir son pardon. Moi, je trouve ça incroyable dans ce texte que c'est ce que Dieu veut offrir au peuple qui ne savait pas quoi choisir entre lui et Dieu. Et à ce peuple-là, Dieu répète encore une fois, « Je suis Dieu, revenez à moi, je suis là pour pardonner votre péché. » Et c'est ce même message que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui. Notre péché n'est pas assez grand pour le pardon que Dieu veut nous offrir. Et la troisième petite chose que je voudrais ressortir pour nous aujourd'hui, c'est que parfois, suivre Dieu nous demande de faire des choix courageux. Des choix courageux qui peuvent nous mettre en porte-à-faux par rapport aux autres personnes autour de nous. Ça peut nous amener de la moquerie, ça peut nous amener d'avoir l'impression de louper des opportunités. Ça peut nous amener à nous mettre parfois dans des situations inconfortables. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Il est puissant, mais il est fidèle aussi, et il va agir. Parfois, on ne sait pas comment. Parfois, il agit de la manière la plus évidente. Parfois, ça sera d'une autre manière que Dieu agira. Mais Dieu ne nous laisse jamais tomber. Et on peut lui faire pleinement confiance. Et avoir ce courage de le suivre, même quand ça coûte. Et pour conclure, je voudrais encore vous rappeler ce beau verset qu'on a en plein milieu. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Quelle douceur de la part de Dieu envers nous. Amen.